Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, notre interview va être consacrée, bien sûr, au climat de guerre au Moyen-Orient, en Terre Sainte. La première question que je voudrais vous poser, Monseigneur Mika, donc depuis samedi matin, depuis que les États-Unis et Israël ont décidé d'attaquer l'Iran, c'est une flambée de combats un peu partout au Moyen-Orient. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se battre comme ça? Est-ce qu'il y a une guerre qui vaut le coup d'être vécue? Est-ce qu'il y a une guerre juste au fond?
Ah, c'est une bonne question. Alors ça dépend à qui elle est posée. J'ai entendu les responsables du Saint-Siège, le cardinal Parolin, par exemple, pour ne mentionner que lui, qui est le secrétaire d'État, donc le numéro 2 de l'Église catholique, dire que la guerre préventive est une catastrophe. Voilà. Le seul usage légitime, on va dire, d'une certaine forme de violence, et elle doit être proportionnée, c'est le fait de se défendre d'une attaque subie et donc proportionnée à l'attaque. Mais faire la guerre pour éviter la guerre, évidemment, c'est un concept avec lequel on a toujours un peu de mal. Même si dans l'histoire, il y a eu le concept de guerre sainte, aujourd'hui, ce n'est plus justifiable comme tel. Donc l'expression est remplacée par la guerre préventive, c'est le terme employé pour la justifier. C'est quand même toujours extrêmement compliqué parce que ça peut être le prétexte à bien des choses. Par contre, se défendre et défendre les populations dont on a la responsabilité est un devoir. Et il faut proportionner le fait de se défendre à ce que l'on subit et donc éventuellement utiliser des armes pour cela. Et voilà. Mais toujours en ayant en tête qu'on se défend et pas l'inverse pour éviter qu'on nous attaque davantage. Voilà. Alors évidemment, c'est compliqué de dire ça quand tout va bien, quand on est en paix ou relativement. Bon. Après, est-ce qu'on ne doit intervenir nous-mêmes que lorsqu'on est immédiatement et directement concerné? Ben aujourd'hui, tout le monde est concerné par tout le monde. Le fait que le monde soit devenu absolument global, quoi qu'il se passe quelque part dans le monde, ça se passe quelque part dans le village qui est notre village, quoi. Bon. Et donc forcément, on est impliqué, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et des intérêts sont en jeu, des intérêts énergétiques, des intérêts économiques, des intérêts donc vitaux, pour les populations et non-populations, et donc je comprends que les responsables politiques de nos pays estiment que on est concerné. De fait, on est concerné, même si on n'est pas immédiatement attaqué. Et puis, troisième remarque, il y a le risque, et on le sait, la fin justifie les moyens, les conventions de guerre élaborées par des gens humainement, je sais pas quoi, enfin voilà, au prix d'expérience et de siècles de conflits, conventions de Genève et autres qui fixent les règles pour mener la guerre sont depuis longtemps complètement oubliés. La fin justifie les moyens et le terrorisme est devenu aveugle sur les populations civiles, enfin, est devenu un moyen de pression comme un autre. Et donc, on est exposé, comme tout le monde, à subir ce genre d'attaques qui ont pour but de semer la terreur, comme le nom l'indique, qui ont pour but de semer aussi la désorganisation, de mettre la pression, et voilà. Et donc, nos responsables politiques ont le devoir aussi de prendre les mesures qu'il faut pour limiter le plus possible les risques, et donc c'est nécessairement dans une vision globale des choses, et je préfère être à ma place qu'à la leur, si j'ose dire, mais je me garde bien, évidemment, de simplisme dans les analyses, et voilà, et donc tout en relayant les propos de la doctrine sociale de l'Église et de la foi chrétienne, l'ultime devoir pour nous, c'est vraiment de prier pour que Dieu change les cœurs de tous les hommes, y compris des agresseurs, et que les ennemis enfin se parlent, parce que de toute façon, tôt ou tard, ça finit toujours comme ça. Alors ça serait mieux de commencer par ça plutôt que d'essayer de finir par ça, mais voilà, c'est comme ça.
Alors, quand il y a ce genre de conflit qui éclate, et à chaque fois qu'on en parle au micro de Radio Présence, et on, voilà, pour être tout à fait transparent avec les auditeurs, on se le disait avant de démarrer cette interview, on parle de paix, on dit qu'on aspire à la paix, qu'on prie pour la paix, et puis finalement, ça recommence, et puis on a l'impression finalement que parler de paix devient banal, devient peut-être aussi même banal que la guerre. À quoi ça sert ?
Ça, à quoi ça sert ? À rien, comme tel. Simplement à considérer les choses, alors en prenant les choses vraiment de loin et de haut, à considérer que si nous ne sommes pas habités les uns et les autres, et le plus possible d'entre nous, dans l'humanité, par la conviction et la conscience que le bien commun est supérieur au bien des individus, que mes intérêts ne se justifient pas si c'est au détriment des intérêts d'autres, et que je dois consentir à partager, à être moins riche pour que les autres soient moins pauvres. Enfin, s'il n'y a pas ce genre de conviction, et ce genre de conviction, il n'est acquis que dans la foi, et la foi réelle, pratiquée, pas seulement une opinion religieuse, mais réellement mise en œuvre, et impliquant donc le fait de renoncer à des choses, à des avantages, et d'impliquer d'accepter des sacrifices, pour le partage. Et dans ce temps de carême, on est invité à réfléchir à cela, et puis à le mettre en œuvre, pas seulement à y réfléchir. Eh bien, ça conduit à des attitudes égoïstes, chacun pour soi, la loi du plus fort, la loi de la jungle, et voilà, et j'essaye de dominer les autres pour, moi, m'enrichir à leur détriment. Il n'y a que la foi et le regard que donne la foi qui peut corriger cette déviance du cœur de l'homme. Voilà. Et donc, ben oui, chaque fois on redit un peu les mêmes choses, mais le constat, c'est que plus la foi recule, plus ce genre de choses domine et gagne du terrain. Alors, ben, c'est un appel pour les croyants à l'être plus et mieux. Et la période dans laquelle nous sommes en ce moment préélectorale en France, eh bien, que les chrétiens fassent à leur tour, et dans le domaine qui les concerne, leur examen de conscience, quelles valeurs ils mettent en œuvre dans les propos de table ou les propos de campagne électorale. Est-ce que ce sont des valeurs de partage, de modération, de sens du bien commun, ou est-ce que c'est la fin justifie les moyens, et tous les armes, tous les arguments sont bons pour casser l'autre et le détruire, parce que comme ça c'est moi qui vais gagner, et voilà. Ben, si les chrétiens jouent ce jeu, ben, c'est exactement les mêmes valeurs qui sont à l'œuvre au plan macro-mondial, et donc voilà, c'est donc un appel. Oui, bien sûr, on dit des banalités, mais c'est des banalités qui touchent à des vérités extrêmement profondes, et il faudra bien un jour ou l'autre qu'on en tire les conséquences et les conclusions dans notre propre manière individuelle, personnelle et puis communautaire, à l'échelle de ce qui est à notre portée, d'en tirer les conclusions effectives dans notre organisation humaine.
Et puis si ce conflit peut nous paraître loin, au Moyen-Orient, en Terre Sainte, se dire que ben, c'est pas tellement chez nous, vous l'avez dit, en fait ça nous concerne évidemment, puisque là-bas c'est aussi chez nous. Et puis dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il faut bien le dire, on a d'abord dans notre diocèse, nous avons un prêtre qui vient du Liban, un séminariste qui vient du Liban, et puis nous avons les sœurs de Saint-Fray, une congrégation née dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, présente en Terre Sainte, présente à Jérusalem. Peut-être avez-vous d'ailleurs entendu sur nos ondes, Monseigneur, la prise de parole, l'interview de sœur Claire Emmanuel.
Oui, j'ai entendu l'interview de sœur Claire Emmanuel, et j'ai été très très touché, et puis et très fier aussi, si j'ose dire, hein, parler comme ça, que des chrétiens soient ainsi, de cette façon, au cœur de la souffrance. De la souffrance du monde, c'est extrêmement émouvant, et voilà, et c'est la noblesse de ce que la foi produit et peut donner à des êtres humains de faire et de réaliser. On a eu l'occasion d'en parler à propos de la béatification de l'abbé Pascal Vergès, par exemple, hein, mais c'est exactement la même chose qui se joue. Et donc oui, bien sûr, vous venez de mentionner la présence du père Jean Hazard, originaire du Liban, dont la famille est au Liban, qui m'a accueilli au mois de juin juin dernier à Beyrouth et qui m'a fait découvrir ce pays que je ne connaissais pas. Et donc, dès les premières heures des bombardements contre Beyrouth, j'ai envoyé un petit message à Jean Hazard et puis à notre séminariste qui est aussi originaire de là-bas. Et j'ai été extrêmement touché de voir dans leur réponse à quel point ce simple petit signe d'attention de trois fois rien les bouleverse, parce qu'évidemment leur famille est là-bas et qu'ils sont... Voilà. Et donc c'est compliqué de dire qu'on n'est pas concerné parce que ça se passe loin de chez nous, dès lors qu'on a des proches, dès lors qu'on est sensible à ce que vivent ceux qui nous sont proches ici, qui sont ici des membres de notre famille et qui donc sont concernés au premier plan et qui par dignité ne le manifestent pas complètement, mais est-ce que moi je manifeste que je suis sensible à ce qu'ils sont en train d'éprouver à distance pour les leurs? Si on le fait, eh bien, voilà, on manifeste qu'on est concerné précisément et on est concerné parce que de toute façon ce sont des frères et des sœurs humains et qui sont frères et sœurs du Christ et qui sont le prochain que le Seigneur me commande de servir et de soulager, d'aider dans leur détresse.
Merci Mgr Mika donc pour vos réponses sur ce sujet. On en reparlera dans les jours et dans les semaines à venir, évidemment, puisque malheureusement, on peut deviner que ça n'est pas fini. On termine cette interview, si vous voulez bien, avec un mot sur le week-end qui se prépare avec ce rassemblement de tous ces jeunes, ce rassemblement Exodus, des jeunes étudiants qui vont se rassembler pour célébrer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Ça c'est quand même un signe d'espérance aussi, peut-être pour le monde entier.
En effet, et c'est oui, parce que parmi ces étudiants, il y a un certain nombre d'étudiants étrangers qui font leurs études en France et qui sont accompagnés par la pastorale, la paroisse des étudiants de Toulouse d'abord. C'est eux qui sont à l'initiative de ce rassemblement à Lourdes là depuis un certain nombre d'années, et puis désormais qui s'ouvre à d'autres, et notamment les étudiants des universités de Bordeaux sont également présentes. Ça fait un groupe très significatif d'étudiants présents à Lourdes tout le week-end et qui vivent un vrai pèlerinage, et donc il faut là aussi prier pour eux pour qu'en effet l'expérience qu'ils font de la fraternité universelle à travers ce pèlerinage vécu ensemble les enracine dans la foi et fasse d'eux des frères universels qui changent demain la face du monde.
Merci beaucoup, Mgr Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. La semaine prochaine, nous parlerons des élections municipales, puisque nous serons à 2 jours du scrutin, du premier tour de ces élections municipales. Donc voilà, ce sera un sujet important que nous pourrons aborder ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne semaine à toutes et tous.